bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Elena Cano-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo Guéry.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et nos invités pour la première fois dans l'émission, Valérie Donzelli et Stéphane Bizet. Non, c'est la première fois, Valérie, c'est la première fois. C'est la toute première fois que vous venez, c'est vrai. On a le sentiment de vous avoir tellement vu. C'est la différence qu'il y a entre une actrice, même si elle est réalisatrice, c'est qu'on la voit et on se dit, oh, mais on la connaît. Alors que Stéphane Brisé, on est sûr de l'avoir jamais accueilli.
Si, on se connaît, je vous rappelle des souvenirs. Si, je vous rappellerai des souvenirs.
C'est violent, ça. C'est violent.
Ça, c'est le dossier personnel, ça. Ouais.
Non, c'est très amical. On a déjà dit il n'y a pas longtemps.
Voilà. Ah non, voilà. C'est pas ça, c'était pas sur ça. Mais...
Ah, pardon.
Non, il faut suivre l'émission. Là, c'est une sorte de teaser.
Waouh!
C'est du teasing.
Bref,
j'en peux plus, moi.
Nous avons. déjà.
Je suis dingue.
T'en peux déjà plus.
Ah ouais,
nous
oui,
avons deux présidents. Présents. Quel bruitage du mec qui boit de l'eau.
C'est hyper gênant ce moment belge.
Pour cette 8e édition, c'est le chef. Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Le Champs-Élysées Film Festival. Le cinéma indépendant français-américain qui se rencontre. Ça a déjà commencé hier avec la projection de Yves pour la soirée d'ouverture. Ça se poursuit jusqu'au 25 juin. Des films, des longs métrages, des courts métrages, des films français, des films américains, des concerts sur un rooftop, des soirées de clôture, des remises, non seulement de prix, mais d'argent aussi, parce que c'est ce à quoi sert ce concert, à mettre d'abord le focus sur des courts-métrages. Vous êtes présidente du jury des courts-métrages,
oui.
Valérie, et vous remettrez de l'argent.
Oui, alors c'est, je crois, 2 500 euros.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Au réalisateur du film français
et 2 500 au réalisateur du film,
voilà,
pour les aider à trouver des distributeurs, voire
pour
les Américains à être doublés aussi.
Non, pour le long, pour les courses, c'est pour vivre.
Pour vivre.
C'est pour
vivre.
Ça.
D'accord.
C'est, nous parlons du cinéma indépendant.
Voilà. Okay.
Donc un cinéma qui se fait un peu dans des économies.
Border.
Difficile, indépendante, ouais, c'est ça. Et voilà.
On sait ce que
non,
c'est.
Pour le long, qui est l'aide au distributeur, c'est
alors,
comme
oui,
le film est plus long.
J'ai vu qu'il y avait même une aide au doublage et au.
Mais je pense que c'est dans cette aide, elle va au distributeur, donc elle peut
d'accord.
être intégrée au doublage ou au sous-titrage. Généralement, pour ces films-là, ils sont pas doublés. Hein. C'est des films sous-titrés.
Trop cher.
Non, mais même ça,
parce
ça coûte.
Que c'est, parce que
pardon,
la,
mais
parce
même
que
ça, la... ça coûte de l'argent aussi. De
ah, ça coûte un peu d'argent, mais je pense que c'est pas tant une question de montant, c'est qu'en France, on va voir comme les films
en VO.
Avec sous-titrage, ce qui n'est pas le cas de plein de pays.
Ouais.
Hein. Ouais.
Ouais, tant mieux, bah bien sûr.
Tant mieux, parce que finalement, on a la voix de l'actrice ou de l'acteur.
Je me tue à expliquer à mes enfants. Faut voir les films. Ils veulent les voir en version française, c'est plus simple. Je dis non, on va le voir avec la vraie voix des acteurs.
Alors,
c'est une bataille. Hein.
Quand c'est une langue que l'on maîtrise un tout petit peu, style l'anglais, ça peut passer. C'est un peu plus difficile en coréen, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Une musique aussi.
Non, je crois que n'importe quel film, faut voir ça en
VO.
C'est bien, quoi. C'est mieux.
C'est
même pas discussion.
La pureté.
Super.
Apparemment, il a un gros dossier sur moi.
Un énorme dossier.
Aucun invité m'a dit.
Personne n'ose me dire ça.
Personne m'a jamais dit il n'y a pas discussion, tu te tais.
Personne.
Vous avez des photos, quoi. Violence.
C'est du suicide.
C'est le président.
Il y en a qui l'ont peut-être fait.
C'est une démarche de président.
Ou de dictateur.
Ça se rapproche parfois.
Ça va s'entendre, c'est de là.
Vous avez plein de points communs finalement.
Ça va pas, non?
Merci.
Nous allons parler de cette 8e édition. Et puis il y a des concerts, il y a du live. Et tout à l'heure d'ailleurs, Adam Nas sera notre invité aussi en live. Shallow ou Sherry Lipstick. Je voudrais juste évoquer aussi la manière où tout le monde d'ailleurs peut participer, la manière avec laquelle tout le monde peut participer à ce festival, c'est pas réservé à des professionnels. On peut aussi acheter son pass. Alors soit c'est 7 € la séance, soit à 49 €, on a un accès illimité à tous les films, les masterclass aussi. Il y a des rencontres, il y a des fêtes, il y a Christopher Walken qui sera présent avec justement une masterclass aussi. Il y a des concerts sur le rooftop. Alors je précise, parce qu'on m'a demandé de préciser, tous ces accès illimités sont dans la mesure des places disponibles. Bien voilà, sûr. C'est-à-dire qu'on fait d'abord rentrer les potes et les invités, et après on va
les
places disponibles. Jouons un tout petit peu avec Valérie Donzelli et Stéphane Brisé. Dites-moi, dans quelle situation Valérie peut devenir très dure?
Quand elle est vraiment très gelée.
Non, gelée.
Gelée.
Elle peut devenir très dure.
Ah oui, elle est dure quand elle est gelée. C'est congelée même.
On s'en prend pas.
C'est ça. Oui, oui, non, dure. Elle est tendue, elle est nerveuse.
Dans un embouteillage.
Non.
Dans un avion, dans l'ascenseur.
Non.
Il n'y a pas de place sur le rooftop.
C'est un peu un point commun avec toi, Leïla.
Boit. Quelqu'un de.
Alors, elle boit. Ça c'est un point commun entre Leïla et la planète entière.
C'est vrai.
Mais.
Je suis universelle.
Non. La planète va mal alors.
Non. Elle n'aime pas casser les fauteuils. Elle n'aime pas.
Les idiots, les racistes, les homophobes.
Oui, alors, non. C'est une situation de la vie. À laquelle on peut se retrouver. Oui, à laquelle on peut se retrouver tous.
Bloqué dans un ascenseur.
Dans un embouteillage.
Non, un truc plus joyeux normalement.
Ah.
Mercredi 14h, la sortie d'un film.
Non, qui concerne tout le monde.
D'accord.
Pas des professionnels du cinéma.
Qu'est-ce que j'aime pas.
Les karaokés nazis.
Alors, on n'est pas loin. Il y a à côté de lui.
Très très dur sur un karaoké nazi.
Elle n'a pas perdre au jeu.
Exactement.
On n'aime pas perdre. Ah, je suis très mauvaise. Moi aussi. Je suis mauvaise. Je pense à moi tout de suite là.
Immédiatement.
J'ai honte, mais c'est vrai. C'est la pure vérité.
Mais attendez. Vous êtes mauvaise perdante au point de tricher.
Je suis mauvaise joueuse. Non, alors je ne triche pas. Non. J'aime pas tricher. Ma sœur triche. Alors, quand je joue avec ma sœur. Ma sœur, Marie, si tu m'entends.
Tu triches.
Non, moi je ne triche pas.
Mais vous n'aimez pas perdre.
Je n'aime pas perdre. Voilà. Je suis mauvaise joueuse.
Non, mais.
Oui, mauvaise perdante, mais mauvaise joueuse. Un peu. Alors, par exemple, il y a des personnes avec qui je ne joue plus. Parce que les conflits sont trop importants.
C'est bon. Vous êtes capable de vous fâcher à la fin d'un jeu.
Bah avec l'homme qui partage ma vie, on joue plus ensemble à certains jeux.
Vous savez quoi? Mais c'est pareil.
Non, c'est horrible.
C'est pareil.
C'est vrai que t'es fâché avec l'homme de sa vie?
Non. on va tous dire avec Mélanie, avec ma femme, si on joue ensemble contre des potes, ça va très bien. Si on joue l'un contre l'autre, qu'une fois, ça s'est tellement mal passé qu'on l'a plus jamais fait en 20 ans. Non, mais c'est impossible. Mais en fait, moi, j'appelle pas ça mauvais joueur. J'appelle ça vouloir gagner. C'est pas pareil.
Non,
mauvais joueur, c'est quand tu perds et que l'autre a quand même gagné dans les règles.
J'aime pas perdre.
Si l'autre gagne dans les règles de l'art, tu dis ok, t'as gagné, il y a pas de problème. Mais c'est quand même l'autre gagne, tu n'aimes pas ça.
Moi, j'aime pas laisser gagner les enfants, par exemple. Mais moi non, pareil. Voilà.
Elle les frappe.
C'est hors de question de faire croire à un enfant qu'il est meilleur que toi.
C'est un enfant. Non, mais c'est vrai. C'est important pour l'éducation. Non, mais c'est vrai.
Rien à faire.
Je suis d'accord.
Non, il faut qu'il apprenne la défaite.
Avec Leïla, l'humiliation. Parce que même quand il a gagné, elle lui fait « Non, merde, tu as perdu, je suis plus grande que toi. »
Petit à petit, 2-3 ans, c'est bon.
Quel regret, malheureusement inévitable, a ressenti Stéphane Brisé quand il a tourné « Une vie » tirée de l'ouvrage de Maupassant. Il y a eu un regret, mais ça, il ne pouvait pas faire autrement.
Bah, il n'a pas rencontré l'auteur.
Ouais, c'est ça. Je voulais que Maupassant joue le rôle, mais.
Non, j'ai pas pu montrer le film.
Vous vouliez avoir l'avis de l'auteur.
Voilà, c'est ça, sur l'adaptation.
Il n'a pas répondu.
Mais ça, c'est Maupassant, c'est Maupassant, ça.
À la limite.
Je suis passé à autre chose, laisse tomber.
Ouais, ouais.
Mais parce que quand un réalisateur adapte une œuvre, on l'a souvent dit à ce micro, que ce soit d'ailleurs les auteurs de livres adaptés ou les scénaristes ou les réalisateurs, il y a trahison.
C'est à la base, quoi. Voilà. On part de ça, ouais. Et donc, moi, j'en parlais tout à l'heure, parce que j'ai adapté un livre d'Holder, et énorme trahison. Il n'y avait pas une scène où il y avait une scène en commun entre le film et le roman. Et pour autant, il m'a dit, mais en fait, c'est très fidèle à mon
livre.
On ne peut pas, C'est marrant, on raconte des histoires, et pourtant, on ne les raconte pas de la même manière. C'est inévitable.
Quel personnage de l'histoire de France Valérie Donzelli aimerait-elle mettre en film, au cinéma?
Philippe Pétain.
Catherine de Médicis.
Non, un personnage plus glorieux, dirons-nous.
Simone Veil, une femme puissante.
Une femme, oui, mais en plus loin dans l'histoire.
Ouais, Aliénor d'Aquitaine.
Jeanne d'Arc.
Exactement. Ah ouais. Jeanne d'Arc. Oui. Vous rêvez de l'incarner ou de le réaliser ?
Non, pas de l'incarner, mais c'est vrai qu'elle est un peu Lorraine, comme moi. Et puis, quand j'écrivais Marguerite et Julien avec Jean Gruau, on avait ce fantasme de faire une Jeanne d'Arc... très gay friendly, voilà.
Parce que vous êtes sur la théorie qu'elle était un homme ou...
Non, mais sur le côté justement où
c'est
elle
une
est
femme
à
ambiguë.
Oui, elle est à la fois homme-femme. Enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, sur
très androgyne, ouais.
Très contemporaine, très sur son androgynie.
Mais alors, pour faire un film sur Jeanne d'Arc, un nouveau film sur Jeanne d'Arc, est-ce qu'il faut avoir un dossier historique étayé qui révèle justement quelque chose de nouveau, une autre facette que l'on n'a pas vue encore au cinéma?
Oui, alors après, comme j'ai un
énième.
Peu abandonné l'idée.
Ah bon, d'accord. Ah, pardon.
Pour le moment. Non, mais parce que c'était quelque chose qui était lié. Parfois, les films, elle reviendra peut-être, mais elles sont aussi, voilà, les idées, elles sont associées à une période de la vie où on a, et puis, voilà, Jean Gréau, je devais l'écrire avec lui, puis il est parti, donc.
Pourquoi Stéphane Brisé ne tweete pas alors qu'il aurait pourtant des raisons de s'exprimer?
Il n'a pas de réseaux sociaux.
Si.
Il n'a pas envie d'entrer dans la discussion.
Ah non, j'ai pas de raison.
Ah, ouais. Ah
ben
voilà.
Non, c'est pas la raison.
Ouais. Vous pouvez une raison.
Il a de l'arthrite au doigt.
Parce qu'il aime bien parler aux gens quand il les voit et pas les gens de façon virtuelle.
Non, il ne le fait pas parce qu'il...
Il a peur de s'énerver.
Superstition. Ouais.
Exactement. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous contrôler si vous allez sur Twitter.
Je pense que depuis que ça existe, les réseaux sociaux, je serais mort 10 fois. Ah bah c'est évident. C'est pour 9 trucs qu'on peut dire pas trop cons. Il y a quand même une fois où ça part.
Il y a la boulette, oui.
Ah bah c'est obligatoire. Moi, pour pas manger de chocolat, je n'achète pas de chocolat. Et pour pas déconner avec les réseaux sociaux, je n'ai pas de réseaux sociaux. C'est obligatoire. Sinon, je suis mort.
Pourtant, vous savez tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, donc vous pouvez vous contrôler. J'imagine que dans des rendez-vous avec des producteurs...
Ah, là,
avec
par exemple, j'ai pris des médicaments avant de venir pour pouvoir me contrôler. Sinon, vous imaginez bien que...
Ça m'entend très mal commencer, ces fameuses...
Mais
il vous faut un modérateur, quoi.
Il faudra quelqu'un entre moi qui dise... Je suis pas certain que Stéphane, ça soit une bonne idée de faire ça. Attends une heure pour le dire. Ah non, mais c'est, et on le voit tous les jours. Des gens qui tweetent trop vite.
Parce que vous auriez envie de vous exprimer sur la vie quotidienne, sur la vie de tous les jours, sur la vie politique?
Il y a des choses importantes, ce que j'ai mangé, les vrais dossiers.
Faites des photos de votre nourriture, c'est
voilà,
très à la
c'est
mode.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est les vrais dossiers. Non, franchement, il y a très peu de fois où je me dis, tiens, ce que je vais dire est assez intéressant pour que ça concerne des milliers de personnes.
Prends des notes, Nagui.
Petite et seule, je suis extrêmement prudent sur Twitter. Petite et seule dans sa chambre, Valérie Donzelli jouait à imiter un métier. À jouer à
Maîtresse,
un métier.
Maîtresse,
non.
La bonne sœur,
douanière,
policière,
non,
la chanteuse,
non,
meneuse
pas
loin, plus.
Animatrice, télé,
exactement,
non, speakerine,
radio,
speakerine. Attends, il y a plusieurs choses. Okay. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à imiter des gens et à me faire des histoires. Donc j'ai beaucoup fait la speakerine, mais beaucoup. Et heureusement,
mesdames et messieurs,
j'ai pas choisi
bonsoir.
Ce métier
ce
parce qu'elle n'existe plus.
Voilà, donc c'était vous présenter les programmes télé du soir.
Voilà.
D'accord.
Denise Favre. Voilà, Denise Favre.
Vous êtes trop jeune pour avoir connu tout ça.
Mais non, je fais plus jeune que mon âge. Ouais.
Bah, tant mieux pour vous, écoutez.
Et
Incroyable, vous avez connu les speakerines?
Ah bah oui.
La chirurgie esthétique fait des trucs incroyables.
Même Dilux, ouais. Mais moi, je suis pour la chirurgie esthétique. J'en ai pas fait personnellement,
mais je suis pour. Ça se voit,
je trouve qu'on
fait.
A tout à fait le droit de faire de la chirurgie esthétique.
Oh non.
Bien sûr.
Mais
c'est le droit, pourquoi, ça.
Non,
elle parle d'un droit.
Pourquoi
est-ce qu'on...
Parce que la nature est belle, parce qu'il faut la laisser...
Et on l'aide parfois, la nature. Ouais. Pour les hommes, non?
Non, on aide, non plus.
Oh, Nagui, en même temps, un petit coup de bistouri, ça vous fera du bien.
Non,
hein.
Mais elle a le droit d'être
court. Alors, moi, j'ai une théorie. Si on était sur Twitter, voilà ce que je dirais.
Au secours.
Chirurgie esthétique pour soigner des personnes accidentées, oui, des grands brûlés, pour ceux qui ont des
on peut faire de la chirurgie esthétique. Mais quand, d'abord, ça veut rien dire,
juste,
chirurgie esthétique, c'est tellement vaste.
Pardon, Valérie, mais vous êtes réalisatrice et actrice. Vous avez vu le nombre de comédiennes qui sont massacrées.
Mais oui, mais parce que c'était pas bien fait, parce que voilà, elles étaient pas accompagnées. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
Et puis, il y en a tellement qui sont opérées, tu le sais pas, Nagui.
Mais oui, maintenant c'est normal.
Tu as un message à me faire passer.
Je te dirai des trucs, ouais.
Regarde,
en tout cas, moi, j'en ai pas fait de la chirurgie esthétique.
T'es pas au courant, mais.
C'est pas elle.
Mais je trouve qu'il faut décomplexer les femmes, par
exemple. Okay. Et les hommes.
Et les hommes aussi, et faire ce qu'on veut.
Revenons à votre chambre.
Alors, donc ma chambre, speakerine. Donc j'ai connu les speakerines. Et après, je faisais beaucoup d'émissions de radio.
D'accord.
Je faisais aussi beaucoup d'interviews avec Sophie Marceau et Isabelle Adjani.
Génial.
J'enregistrais tout ça sur mon petit magnétophone et je faisais tous les personnages et tout. Donc,
C'est collector, ça.
J'aimais bien imiter, j'aimais bien... Ouais. Voilà.
Et comme vous avez une très jolie voix qui passe extrêmement bien à la radio, vous n'êtes jamais dit « je pourrais faire une émission » ?
Alors, j'ai
vous l'avez fait,
plus
pardon.
Dit que ça. J'adore la radio, j'écoute la radio depuis que je suis toute petite et tout. Et je rêverais de faire une radio pour enfants, qui s'appellerait « La Petite Radio ». Et
avec des jeux où les enfants perdent ?
Non, pas des jeux où les enfants perdent, mais vraiment, en fait, j'avais pensé à ça quand mon fils était à l'hôpital pour avoir, parce que c'est un média qui, ouais. C'est le plus vieux média et c'est celui qui ne se démode pas. La radio n'a jamais été autant écoutée avec des podcasts et tout ça, c'est formidable. Et c'est tellement reposant d'entendre une voix et de pas avoir l'image. Alors maintenant, je sais qu'on est tout le temps filmé, même dans les émissions de radio et tout ça.
Il y a quand même plus de gens qui écoutent que
mais
ceux
moi,
qui
j'écoute
regardent.
La radio, ouais, je ne regarde pas la radio et c'est vrai que j'aimerais un jour pouvoir faire cette radio pour enfants où on écouterait le matin, les infos pour, au niveau des enfants, des émissions de philosophie, des cours d'anglais, des trucs interactifs, on pourrait aider les enfants pour les devoirs, enfin je sais pas. Et j'adorerais faire ça.
Il y a une opération qui peut, je pense à ça avec les enfants qui se retrouvent hospitalisés pendant une période plus ou moins longue ou courte, ce sont les cartables connectés. Une opération que lance Marc Lavoine, c'est génial, c'est lorsqu'un enfant est hospitalisé, il a une sorte de d'ordinateur ou d'iPad à l'hôpital et il est relié en Skype ou FaceTime et autres avec la classe. Il a un micro, il peut interagir et poser des questions dans la classe avec le professeur, entendre ce qui se dit comme s'il était, et avoir une vie sociale, scolaire qui se poursuit, continuer d'apprendre, et puis les enfants lui parlent et ça change énormément le quotidien de l'enfant à l'hôpital.
Ah, mais c'est super, mais ça c'est le côté positif en fait de notre nouvelle,
des médias.
Nouvelle technologie. Ouais.
Stéphane Brisé n'en a pas chez lui.
De téléphone.
Exactement. Pas de télévision.
Ah
ouais.
Bah, je ne suis pas le seul, je pense que Valérie non plus.
Alors moi j'ai une télévision, mais je ne sais pas du tout m'en servir. Bah. Et j'ai la télévision pour regarder des films.
Mais c'est le même principe, c'est que pour ne pas regarder la télé, je n'ai pas de télé. Non, mais il y a quand même une forme de rigueur quand même. Ouais, c'est
le même dans la vie.
L'austérité, une forme d'austérité protestante.
C'est extrémisme. Non, c'est pas tant de la rigueur qu'une sorte d'aveu d'incapacité à
assurer. Ouais, tout à fait. Non, mais dans les hôtels, moi je peux regarder... du curling à 2h du matin pendant 1h30 et je ne vais pas lâcher le truc.
VDM.
Je peux regarder n'importe quoi, des émissions consternantes, je peux rester devant. Donc comme je sais que j'ai cette fragilité là et que quand même j'ai une famille à nourrir, je dois travailler, donc je ne passe pas de mon temps à faire ça, mais je suis obligé de me cadrer.
Et pour la drogue, c'est pareil, vous n'en avez pas à la maison. Non, mais
alors là, je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Voilà. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur
que je trouverais ça bien,
ou la cocaïne, ça. Je crains de trouver ça bien, et je ne pourrais pas me contrôler.
En fait, vous êtes conscient d'une forme de faiblesse, et vous en faites une force.
De certaines fragilités, mais je sens que ça pourrait, je suis sûr que je pourrais trouver ça sympa au départ, et basculer dans le truc.
Ouais. T'as compris, Guillermo?
Absolument.
Mais voilà.
Les gens doivent se dire, l'austérité de la vie de ce garçon.
Pas du tout. Non, mais pas du tout. Au contraire, parce que vous dites, je suis incapable de me contrôler, et je trouve que vous êtes au contraire extrêmement sous contrôle. En faisant tout ça, vous contrôlez en permanence.
Faut mettre un cadre. Alors je sais pas pour Valérie, mais on a quand même un métier où on se met devant l'ordinateur le matin, on est quand même seul au monde, quoi. On est seul avec son désir. Il faut construire une histoire, un film, et si j'ai pas, c'est très volatile tout ça.
Et
une chose qui est pas volatile, c'est le désir et la nécessité. Mais se mettre tout seul devant son ordinateur et être porté par un désir d'une histoire, c'est des mois et des mois de travail. Si j'ai pas un cadre autour, c'est même me coucher pas trop tard. Enfin, je suis obligé d'avoir ça. Sinon, ça part en sucette dans tous les sens.
Quoi. Valérie Donzelli.
Oui, je comprends. Moi, je sais pas trop. Moi, je suis un peu tout le temps en dehors du cadre. Alors, souvent, j'ai des choses qui me cadrent. Par exemple, mes enfants avec des horaires. J'ai commencé à avoir des enfants assez jeunes et tout. Donc, j'ai toujours fait des films avec mes enfants, par exemple. Donc, ça n'a jamais été un empêchement. J'ai toujours lié à ma vie, à mon travail,
mais
à mes histoires.
Mais pardon, toutes les mamans n'ont pas des horaires calés pour les enfants aussi. Il y en a qui partent en vrille, hein.
Oui, mais je crois que ça m'a pas mal cadré, en fait. Et puis, non, mais je crois que je suis assez raisonnable.
Et pour travailler, pour écrire, justement, ce
cadre... Alors, ça, j'adore. Je peux écrire n'importe où, n'importe quand.
Sur n'importe quel support ?
Sur n'importe quel support, non. Sur mon ordinateur.
D'accord.
Mais je peux écrire avec les enfants qui sont à côté de moi. Je peux,
ah, même si c'est du bruit ?
Oui, ça ne me gêne pas du tout.
Ah, oui.
J'arrive à me concentrer n'importe où.
La tête de Stéphane Brisé.
Mais après, c'est...
Vous avez du silence, vous ?
Mais ça vient de la contrainte
aussi.
Même
je mets des boules caisses quand il y a le silence aussi.
Non, moi j'ai pas besoin de... Justement, j'aime pas trop le côté... trop cadré, parce que ça me stresse en fait. Donc j'ai besoin, au contraire, de me dire je fais ça comme ça.
Alors, est-ce que tout ce que vous apprenez sur vous et sur votre manière de travailler va vous donner plus d'indulgence pour observer et présider les courts-métrages et les longs-métrages de ce festival? Parce que votre rôle est extrêmement important. Président du jury, on a parlé tout à l'heure des dotations qui étaient faites, mais il y a bien plus que ça. Il y a de la distribution, il y a de la présence, la représentation de ces films à l'étranger, aux États-Unis, où je crois qu'en octobre prochain, il y a plusieurs villes.
Les films français vont voyager aux États-Unis dans plein de villes, c'est assez incroyable.
Voilà. C'est ça. C'est un rôle important. Comment vous l'appréhendez, ce rôle, Stéphane Brisé, de président du jury?
Tous les films qui ont été faits, c'est porté par quelqu'un qui a un désir fort, une nécessité. Ça lui a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus d'années de sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est à respecter. Il faut le même temps pour faire un mauvais film qu'un bon film. Et à un moment, on se dira, bah tiens, celui-là, il nous semble mieux que les autres, mais ça sera complètement subjectif dans l'instant, quoi. C'est très émouvant de voir tous ces désirs quand on feuillette un catalogue de festivals. C'est de dire, ah, mais tous ces gens-là sont comme moi. À un moment, ils sont dans leur, dans leur bureau, dans leur cuisine, en train de taper sur l'ordinateur. Et ils sont portés par quelque chose de très fort. Et puis après, ils vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent pour réunir de l'argent pour faire les films. Et là aussi, on va voir, il y a 12 films en compétition. Il y a une compétition américaine avec 6 films et 6 films français. Et aux États-Unis, alors, c'est pas simple de faire des films en France, hein. Mais aux États-Unis.
Ce sont des films indépendants.
Indépendants. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est très, très, très compliqué de faire des films indépendants. Les mecs, ils vont taper leur grand-mère, ils ouvrent un
vous
compte.
Vous parlez d'argent, là, quand vous dites ça.
Oui, oui. Non, voilà. La notion de film indépendant aux États-Unis, elle est très vaste, hein, parce qu'il y a des films indépendants à 40 millions de dollars, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de films indépendants à 100 000 dollars.
On rappelle que quand on dit indépendant, c'est hors des studios et des gros budgets, donc des distributions et des.
Mais il y a des gros budgets quand même en film indépendant, parce que c'est des filiales de studios.
Sur les courts-métrages, Valérie Donzelli, c'est un peu ce que vient de dire aussi Stéphane Brisé, avec le truc en plus, c'est-à-dire de passer après au long métrage.
Oui, c'est ça. Il y a un petit côté galop d'essai avec le court-métrage. Et en même temps, on voit déjà la patte de quelqu'un. Enfin, et puis, moi, je pense que c'est tout aussi difficile de faire un court-métrage qu'un long-métrage. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait mon premier court-métrage...
Demoiselle, c'est ça?
Non, alors, Demoiselle, c'était le premier, mais je ne l'ai jamais terminé, en fait. Je parle plutôt de Il fait beau dans la plus belle ville du monde, où j'ai compris comment je voulais faire des films. J'étais tellement triste que personne n'en veuille et tout ça, que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais en faire un autre, mais je vais faire un long métrage parce que finalement, c'est pas tellement plus dur, c'est juste un peu plus long. Et finalement, je crois qu'à partir du moment où on décide de faire des films et qu'on passe ce cap-là, après, on passe le cap d'en faire un long, enfin, c'est la démarche.
La force des courts-métrages, c'est quoi? C'est que la contrainte pousse à l'idée de génie?
Je sais pas si c'est une idée de génie, justement. C'est, pour moi, un court-métrage, ça reste un film. Enfin, il y a des très grands films qui sont des courts-métrages. J'étais, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, marraine d'un réalisateur canadien qui s'appelle Jérémy Comte, qui a fait un film qui s'appelle Fauve, qui dure 16 minutes, qui est absolument génial, qui a été primé à Sundance, qui a eu l'équivalent du César au Canada, je sais pas comment ça s'appelle, qui était en route pour les Oscars et tout ça, et qui est un film très 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 puissant, quoi. Et on voit bien que c'est un futur grand metteur en scène.
À suivre, donc, très bien.
Il est génial. Donc je pense que dans les courts-métrages, on peut avoir des vraies pépites, quoi.
Le Champs-Élysées Film Festival a commencé hier, se poursuit jusqu'au 25 juin, c'est la 8e édition. Et vous l'avez compris, il y a aussi des masterclass, il y a aussi des concerts, des avant-premières. Tout le monde peut y participer, c'est 49 euros le pass illimité ou 7 euros la séance. Et on s'attend déjà évidemment à un succès, mon cher Jean-Jacques Lang.
Évidemment, évidemment, mon cher Nagui, la présence de Valérie Donzelli et de Stéphane Brisé a présidence des jurys du court et du long, jury dont je précise à certains de nos auditeurs que nos invités ne sont pas chargés de juger de l'arôme de différentes marques de café, mais de la qualité de long et de court métrage.
Voilà.
Leur présence, disais-je, est déjà une garantie de succès pour ce Champs-Élysées Film Festival, qui peut se traduire en français par, et si je suis approximatif, vous me corrigerez, dire Nagui, vous qui êtes parfaitement bilingue, qui peut se traduire par Festival du Film des Champs-Élysées.
Pas mal. Oui. Enfin, moi, je corrigerai un qui se déroule sur les Champs-Élysées.
Tout
voyez,
à fait.
Il y a une nuance géographique.
Mais bon, avouons qu'en Amerloc, c'est franchement plus bas. En plus, il y a des trucs, vous l'avez dit tout à l'heure, Nagui, qui se passent sur un rooftop.
Oui.
Vous pourriez préciser ce que c'est qu'un rooftop.
Une terrasse.
Voilà, bien. Merci de le préciser. Et puis, bien sûr, les gages de succès ne manquent pas. Programmation, projection, super production, compétition, programmation, distinction, jubilation, alcoolisation, copulation, des tas de trucs en sion, sans oublier l'attraction exercée sur le public international par l'avenue des Champs-Élysées. Loin de moi de rouvrir les plaies encore béantes d'une période aussi agitée que récente, où la fièvre du samedi soir, au lieu de chauffer les dance floors où se pressent mes amis clubbers, toffers, gogo et pole dancers, où cette fièvre embrasa littéralement le macadam de cette avenue, dans la furie des corps à corps, entre gilets jaunes, verts de rage et rouges de colère, et policiers musclés, musculeux, LBD, et voilà. Grosse matraque à la main, mon cousin. Pour paraphraser le titre de votre film c'est remarquable, honteux. Cher Valérie Donzelli, on pouvait dire que la guerre est déclarée. Donc, Champs-Élysées, outragé. Champs-Élysées, brisé, pardon, cher Stéphane. Là, nul jeu de mots lourdingue, j'emprunte l'adjectif, vous l'avez tous compris, au général de Gaulle. Champs-Élysées martyrisé, mais Champs-Élysées libéré. Car le cinéma, c'est la liberté. Liberté de création des réalisateurs et des acteurs. Liberté des spectateurs de kiffer ou de détester leur race.
Merci Jean-Jacques.
Et le cinéma, comme le monde, ce merveilleux Champs-Élysées festival,
merci.
Vous avez traduit, c'est aussi la fête. Fête que j'entends prolonger samedi soir au Banana. En vous invitant toutes et tous à la projection d'une comédie musicale dont j'ai écrit le scénario avec mon cousin Jack, Mary Poppers. Il y aura même des Ramoneurs. À bientôt.
J'en suis. Je m'appelle la bande originale.
Leïla sera là.
Voilà. C'est la marraine.
Voilà. Valérie Donzelli, qui en effet avait signé La Guerre et déclaré un superbe film,
très bon
un
film.
Très beau succès dont on va reparler. Comme on reparlera un tout petit peu aussi de La Loi du marché de Stéphane Brisé, énorme succès aussi. Mais d'abord, on est moins dans le succès, on est plus dans la compassion. Voici Guillaume Audier.
Oh mon Dieu. Ça va les amigos?
Ouais.
Vous savez, moi je suis célibataire.
Ah bon?
Alors quand je me réveille le matin, je suis seul. Moi j'ai personne avec qui partager mon érection. Alors, c'est vrai. Alors pour me sentir moins seul, j'allume la radio. France Inter en général. Ah, ça vaut pas courtoisie, ah, mais je suis corporate. Et en plus, il y a des jours sur Inter, l'invité de la matinale, c'est même pas Daniel Cohn-Bendit. Ça vaut la peine. Hier, comme tous les matins, je mets mon réveil à 6h55. 6h55, c'est la chronique de mon pote Daniel Morin. Ça me fait une compagnie. Bruyante, hein. Ah oui, ça gueule, ah, t'as l'impression d'être à la criée. Vraiment, t'as envie d'acheter une limande. Mais ça me fait une compagnie. Et là, 6h55, hier, j'allume la radio. Et qu'est-ce que j'entends?
Je pense à toi.
Ça, c'est pas mon Morin, ça. C'est pas mon Morin. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à mon Morin? C'est pas sa voix. Il a eu cette voix un jour, avant mai 68. Il avait pas encore cette barbe drue, là, qui lui sert de garde-manger pour les pinsons. Et ben là... Je suis en panique, je crois à une erreur, et j'entends...
Je fais l'amour à une inconnue.
Daniel, c'est toi? Sérieux, je t'ai déboussolé. 6h55, une chanson. Donc je zappe sur France Impo, pareil, qu'est-ce que j'entends?
France Impo.
France Impo, absolument.
Avec
France
Impo.
Je vais sur France Impo et j'entends une chanson sur France Info, la chaîne de l'info. Je me dis, ça y est, on y est, c'est le bug de l'an 2000. Il avait raison, Paco Rabanne. Alors du coup, je fonce sur ce que les jeunes appellent l'Internet World Wide Web en ligne. Et qu'est-ce que je lis sur le site du Parisien? Les fameuses playlists de Radio France devraient remplacer nombre des émissions habituelles. Et je me dis, les bâtards! Il y a une grève à Radio France et personne ne me dit rien. Vous me dites rien, putain, les gars. Il va falloir arrêter avec la haine des Belges, hein. C'est terminé. Sérieux, oui, on a mieux joué que vous à la Coupe du Monde, mais on n'est pas vos ennemis, hein. Putain, les bâtards. Et les bâtards du Parisien aussi, d'ailleurs, parce que dans l'expression, les fameuses playlists de Radio France, il y a un de ces petits sous-entendus.
Tant attendu et qu'on aime et qu'on préfère au programme.
De fils de tuche. Et un petit sous-entendu. Ça, c'est dit en substance que dans cette grande maisonnée, hein, tu vois, de branleurs syndicalos, stalino, vegan, on fait tellement souvent la grève qu'à force, on a des playlists, hein, à côté des grands noms de la maison, les Domorans, les Salamé, les Trapenard, les De Villers, les Kadour Boudadi, les Philippe Bertrand, les Mathieu Vidard, les Antoine Decaune et Charline Van Hacker. Vraiment, à côté vraiment de la crème des animateurs, vraiment. Putain, tout ça pour arriver à cette blague. franchement. Après, tu t'étonnes que Macron il coupe les vives. Franchement, forcément. Je l'imagine dans le bureau de Civil Veil, une demi-minute de droit d'auteur pour une blague sur Nagui. Oui, monsieur le président, mais bon, Ernesto, vous savez, il a pas une enfance facile. J'en ai rien à foutre. Moins 20 millions dans le budget. Et bim, playlist de grève. Et j'étais là hier matin, seul chez moi. Je papotais avec mon érection. Et je lui disais, elle est quand même vachement bien, cette playlist. Et elle me fait, oui, mais justement, stratégiquement, c'est pas une bonne idée, c'est pas malin. Elle me dit, dans quel sens? Elle me dit, t'es sûr que tu veux vraiment que l'angle de ta chronique soit fourni par une érection? Ils le sauront jamais. Et donc. En fait, elle a raison. Si tu veux démontrer qu'en asphyxiant le service public à terme, on sera incapable de produire une radio de qualité, n'illustre pas le propos avec une playlist de qualité. C'est vrai, fais passer un message fort.
Ouais.
Brûler. Ah ouais, mais ça fait. Les lacs du Connemara en boucle toute la journée, que les auditeurs aient envie de crever dans une farandole, quoi, vraiment. Parce que là, pendant les grèves, on te met du Tame Impala, du Disclosure, de l'Etienne Dao, t'es là, ah, c'est sympa cette radio, c'est quoi cette radio? C'est France Inter, ah bon, ils ont viré Fabrice Zouel. Oh, c'est dommage, j'avais une belle voix de radio. Ouais, c'est pas grave, hein, tomber pour la France. Non, pas tomber pour la France, le Connemara, toute la journée. Oui, un message fort, parce qu'il y a une radio flamande, là, qui va le faire la semaine prochaine, 5 jours d'affilée, ouais. Le Connemara, non-stop. Ouais. Toute la journée, ils veulent battre le record du monde. Mais vraiment, ils veulent battre 5, me demandez pas pourquoi, franchement, la Belgique, c'est quoi. Mais vraiment.
Tu comprends pourquoi t'as perdu la Coupe du Monde?
Oui. Je sais pas qui programme les playlists d'Inter, mais ça peut lui donner zier. Allez, bonne émission, Adèle.
Merci, Guillaume Guillaume.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et dans cette bande originale, Stéphane Brisé et Valérie Donzelli sont nos invités, respectivement président du jury des longs métrages pour Stéphane Brisé et des courts métrages pour Valérie Donzelli. Nous parlons de ce Champs-Élysées Film Festival qui se déroule exactement au 133. Enfin, il y a plusieurs cinémas sur les Champs-Élysées, mais au 133, il y a le Publicis, je crois, hein, c'est ça. Et donc cette fameuse terrasse plus branché de dire rooftop sur lequel il y aura des concerts. Là aussi, si vous avez les passes illimitées, vous y avez droit et vous y avez accès. Et parmi tous les artistes qui s'y produisent, Please Come Back to Me, il s'agit d'Adam Nas qui est en live dans la bande originale.
Yeah.
Adam Nas, avec sa voix, si j'insiste sur la voix, évidemment, c'est que...
Il est chanteur.
Elle est frappante, mais surtout, vous refusez, Adam, bienvenue à ce micro, vous refusez qu'elle soit trafiquée, vous refusez qu'il y ait des effets sur votre voix, vous voulez qu'elle soit nature.
Oui, un peu. Enfin, je me dis que tant qu'à chanter, autant que ça soit ma vraie voix, quoi.
Oui, puis elle est suffisamment originale pour ne pas rajouter des trafics dessus ou des autotunes.
C'est vrai ?
Bah oui.
Bon bah tant mieux alors.
Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Faites pas les garçons surpris. Adam Nas, vous êtes en tournée avec cet album, premier album qui s'appelle The Love Album. C'est vrai que vous avez hésité à l'appeler Love Album. Vous trouvez ça un peu prétentieux de...
Bah, il y a un côté très prétentieux quand même, non ? Bah si Love Album, c'est un peu arrogant. Mais après, je me suis dit, c'est mon Love Album. Ouais. C'est mon Love. Donc du coup, je me suis dit que ça allait.
The Alors. Love Artist, The Love Album, c'est pas mal.
C'est pas mal, ouais, non, j'aime bien.
Clin d'œil à Prince.
En fait, je m'en suis rendu compte après qu'il avait appelé un album The Love. Il y avait un truc comme ça.
Non, mais lui, il s'appelait Love Symbol.
Love Symbol aussi. Ouais.
Puis, il avait changé de nom. Ouais.
Ah! Bon, bah ouais. Je comprends de mieux en mieux le parallèle.
Faut qu'on se parle, la dame. Faut qu'on se parle. Sur l'album, il y a. Cosmic Savior, Safe Behavior. Ouais, c'est sur celle-là que j'ai accroché. Ah ouais, vraiment, vraiment. Elle raconte quoi, cette chanson ?
Ah, cette chanson, c'est une chanson qui me tient vachement à cœur parce que quand je l'ai écrite, c'était un moment où j'avais besoin un peu d'assumer un peu tous les trucs un peu chelous que je représente, etc. Enfin,
c'est quoi les trucs chelous ?
Non, mais je veux dire, toutes les choses... sur lesquels j'ai dû travailler personnellement pour être la personne que je suis maintenant et être fier de tout ce que je suis, etc. Donc du coup, cette chanson était importante pour moi et surtout le passage
par rapport bridge. Au regard des autres ?
Oui, par rapport à tout, de manière générale.
S'accepter soi-même tel qu'on est et pas forcément tel que les autres voudraient qu'on soit.
Ouais, exactement. Et cette chanson m'a beaucoup aidé. Je voulais que si elle a aidé des gens, je sais pas, ça me rend très très heureux.
Et alors, lorsque vous étiez venu dans Taratata, vous m'avez dit, moi, mon rêve, c'est que des gens fassent l'amour sur mon disque.
Oui.
Enfin, sur la musique. C'est trop petit, ouais, c'est
trop minuscule.
Merci Stéphane, je connais la taille d'un disque, c'est gentil de me le préciser.
C'était pour faire une vanne.
Sur la rondelle, oui, j'ai compris.
Gestuelle, pas radiophonique, mais voilà, je voulais participer.
C'est gentil.
Je voulais participer.
C'est un travail de groupe, vous avez raison.
Vous avez été filmé, Stéphane.
Non, mais c'est vrai que c'est amusant de se dire, j'adorerais, comme Barry White a été souvent cité, comme étant un disque qui provoque comme ça des frissons et des envies d'amour.
Bah peut-être même que l'inspiration première c'est Barry White du coup, parce que ma mère écoutait beaucoup de Barry White à la maison aussi, j'ai l'impression qu'elle écoutait que ça, donc je me suis dit peut-être que moi j'étais conçu sur le petit Barry. Donc pourquoi pas que quelqu'un soit conçu sur le petit Adam, quoi.
Ça serait bien, non ?
Ce serait sympa, je sais pas, il y a quelque chose de très sympa.
Faites un effort, les gars.
Sur l'album, il y a également...
Ah ouais, c'est pas le faire.
Ouais.
Ah, Nagui.
T'as déjà des envies, là ?
Ne me regardez pas comme ça. C'est gênant.
The Love ou Strange Love ? Extrêmement bon en tout cas, et c'est aussi bon en live que sur disque. Le disque s'appelle The Love Album et la tournée passe donc par le Champs-Élysées Film Festival. Ça sera demain, carrément, oui. Même, ouais, sur la terrasse du Publicis. Sinon, il y a Solidays également le 21 juin pour la fête de la musique, donc après-demain. Oui. Puis vous serez également à Cognac le 5 juillet, Casablanca Jazz Festival, le Rootstock Festival à Château de Pommard, ça sera le 14 juillet, la déferlante Saint-Brevin-les-Pins, ça sera le 25 juillet, il y a plein de dates, allez sur le site de l'émission, on va toutes les mettre, il y a également la fête des solidarités à Namur, ça se passera en Belgique le 25 août prochain, puis vous partirez pour le Canada. Merci Adam Nas d'être venu à ce micro.
Merci beaucoup.
Et il y a encore deux titres à venir, une reprise de My Way et un autre titre de l'album. Merci. Adam Nas en live dans la bande originale. La bande originale. Midi sur France Inter. Valérie Donzelli et Stéphane Brisé sont nos invités. Nous parlons donc de ce festival du film, Champs-Élysées Film Festival. Et on va s'intéresser aussi à la musique que vous écoutiez, vous. Par exemple, en 2010, Valérie Donzelli, vous écoutiez Yehudi Menuhin. C'est cette version des Quatre Saisons particulièrement qui vous touche ?
Oui, mais c'est surtout, c'est marrant parce que de l'entendre, ça m'émeut en fait.
Ah oui, ça vous émeut au point de retirer le casque carrément.
Ouais, ouais.
D'accord.
Non, mais parce qu'en fait, c'est en écoutant ce morceau que j'ai eu l'impulsion de l'écriture du film La guerre est déclarée. Et notamment, parce que j'adore écrire en musique. Et. J'écris tous mes films avec de la musique. Il y a des musiques qui m'inspirent des scènes, il y a des musiques qui m'inspirent des films.
En fait, il y a une BO du film et une BO de l'écriture.
Oui. Ah oui, mais souvent c'est la même en fait.
D'accord.
C'est souvent la musique que j'ai dès le départ, elle est à la fin dans le film. Enfin, c'est très lié.
Est-ce que l'humeur de la musique influence sur l'humeur d'une scène aussi ?
Ah ben complètement, parce que là, par exemple, c'est en entendant cette musique que j'ai imaginé la scène où elle prévient tout le monde au téléphone et tout ça, et je me suis dit, c'est ça le film. Enfin, et j'ai commencé à écrire presque dans la foulée. Donc c'est vrai que ça m'émeut, parce que après, il y a eu toute l'histoire du film. Mm-hmm. Et quand j'étais...
Histoire vraie, on le rappelle.
Et voilà, l'histoire vraie. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai dit à Jérémy, regarde, écoute, c'est ça le film, et ça, et qu'il m'a dit, ah oui, je le vois. Enfin, il y avait un... Voilà, c'était le début d'une aventure qui, après, nous a dépassés. Mais c'est marrant, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on est seul dans sa chambre, et puis on imagine quelque chose, et puis voilà. C'est...
L'histoire d'un combat, celui de parents pour leur enfant.
Ouais.
Et puis, au-delà de ça, c'est une histoire d'amour incroyable, en fait.
Oui, enfin, c'est... pour moi, c'était vraiment important de raconter un jeune couple qui n'est pas préparé à la guerre et qui d'un coup se prend ça dans la figure. Et quand on a son premier enfant, on ne peut pas imaginer une chose pareille, en fait. Et donc, c'est vraiment l'idée de... Oui, l'idée d'être dans la pulsion de vie et pas dans l'angoisse de mort. Et
c'est une façon aussi, quoi, de mettre à distance un événement que de... Le donner à voir aux autres sur grand écran, c'est le recomposer, le retravailler.
Oui, pour moi, ça a été vraiment important d'être actrice de cette situation, en fait. Et d'ailleurs, c'était pour ça que je voulais retourner dans les hôpitaux et montrer aussi mon travail à ces gens qui nous avaient tant donné. Et c'était une façon de pouvoir contrôler les événements, puisque quand on fait du cinéma, on contrôle pas tout, mais on contrôle une certaine partie, quoi. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que mon fils, il va avoir 18 ans cette année. Il passe le bac et je crois que c'est pour ça que je suis si émue.
Oui. Mais c'est en tout cas, vous l'avez gagné cette guerre, c'est ça qui est qu'il faut retenir.
Ouais.
Stéphane Brisé, dans cette même période 2010-2011, encore une BO. Il faut dire que le violon n'aide pas non plus à retenir ses larmes, hein, si je peux me permettre.
C'est
vraiment un instrument qui touche, quoi, qui me. Ça, c'est la BO de votre film.
Mademoiselle Chambon, ouais. C'est Franz von Weckscher, l'auteur de cette musique. C'est sublime, mec, pas très connu. Et alors moi, je découvre. Alors j'écoute de la musique régulièrement, mais je découvre pas tant de choses que ça au quotidien. Je découvre des films, mais alors la musique, je suis...
Sans télé, sans radio, sans réseaux sociaux.
Non, j'ai une radio quand même. Et c'est en faisant les films que là, je découvre beaucoup de choses. Et quand j'ai fait Je ne suis pas là pour être aimé, j'ai mangé à haute dose du tango. Là, la musique classique, et donc j'ai toujours un conseiller musical. Et moi, je travaille toujours la musique en amont du tournage. Donc pendant que j'écris, j'ai besoin de savoir quelle va être la BO.
Comme Valérie, donc.
Oui, ouais. Alors pas forcément en écrivant avec la musique dans les oreilles, mais parfois je me la mets, puis ça crée des images aussi. Et là, donc je découvre cette musique et pendant l'écriture de Mademoiselle Chambon, qui est l'adaptation donc d'un livre d'Holder, et juste rendre hommage à Eric Holder, qui est mort il y a pas très longtemps, qui était un homme très touchant, très très écorché. et qui était un très bel auteur. Et j'ai adoré passer un moment avec son œuvre. Et alors maintenant, c'est marrant parce que quand je vois un livre qui s'appelle Mademoiselle Chambon, je dis, tiens, c'est bizarre, il y a un livre qui porte le nom de mon film. Très, très étrange. Et puis, voilà, c'était la rencontre aussi. Mademoiselle Chambon, c'est la rencontre avec quelqu'un d'hyper important pour moi, c'est Vincent Lindon. C'est quelqu'un qui, c'est une rencontre fondamentale de ma vie. Et depuis, on a fait 4 films ensemble. C'est quelqu'un de très, très, très exceptionnel. Et c'est sur ce film que réellement ma vie change, parce que c'est quelqu'un d'étonnant. C'est quelqu'un de très unique. Voilà. Donc quand il rentre dans la vie de quelqu'un, ça met du vent dans les voiles.
Étonnant, unique, au-delà d'être un très bon comédien.
Bah après, tout se mélange parce que la relation, elle est aussi amicale, quotidienne. Donc, on échange beaucoup, beaucoup de choses. On se voit, on peut boire des coups, manger ensemble. Et puis, on parle de plein de choses, de la vie. Je lui parle des projets que je suis en train d'écrire. Donc, il est très vite associé au projet parce que moi, j'écris pour moi. Les personnages sont que ce soit homme ou femme, d'ailleurs, c'est des projections de moi-même. Alors, quand c'est un homme d'une cinquantaine, un peu plus de 50 ans, très vite, il va pouvoir mettre ses pas dans les miens. Bon, lui, Vincent, on est triste de la même manière, pour les mêmes raisons, je veux dire. Sauf que lui, quand il est triste, c'est 10 fois plus triste que moi. Quand il est gay, c'est 10 fois plus gay que moi. Mais finalement, les mécanismes sont assez les mêmes. On se retrouve.
C'est votre double, en fait.
C'est Stéphane Brisé en acteur, ouais, c'est ça. J'aurais été acteur, j'aurais bien aimé être. J'aurais joué, je pense, un peu comme lui, quoi. Donc, on sait pas, il les met assez facilement dans les miens. Et c'est vrai que. Force est de constater, sur le plateau, il y a quand même quelque chose de très... Il n'y a pas beaucoup de mots pour s'expliquer comment on va jouer un truc ou un autre. Donc c'est une rencontre très fondamentale.
Alors justement, on va revenir dans une période qui le concerne encore. Mais d'abord, Valérie Donzelli, en 2014, vous écoutiez... Donc vous allez pleurer toute la journée.
Moi,
Quelle image vous avez avec cette musique jouée par Glenn Gould?
Ben ça, c'est un film que j'ai fait un peu en hommage à ma mère, en fait, qui s'appelle Le cinéma de maman. Et je remercie Arte parce qu'ils m'ont donné une carte blanche. Donc ils m'ont dit, voilà, tu peux faire un film, le portrait de qui tu veux. Et j'ai décidé de faire celui-ci, celui de ma mère. Et qui a filmé toute sa vie en Super 8. Donc c'est marrant parce que je me suis rendu compte que moi, je faisais des films et qu'en fait, ma mère, je l'ai vue toute ma vie avec une caméra... Ce qui à l'époque était quand même assez rare, en fait, tout le monde n'avait pas une caméra Super 8. Et puis j'ai découvert, en fait, à travers tous ces films Super 8, en allant faire des recherches chez mon père, qu'il y avait aussi des films qui dataient de 1937, puisqu'elle est tout bébé, dans les bras de son père. Enfin, c'est juste bouleversant. Et vraiment, c'est un film sur le cinéma comme marque de mémoire, en fait, puisque ça imprime des choses qui restent immortelles. Et moi, je crois que je fais des films aussi pour ça, parce que j'ai, comme tout le monde, peur de mourir. Et que les films, ça laisse une trace, ça laisse quelque chose. Et voilà, et ça, c'est un moment très beau où on rentre dans l'atelier de mon grand-père qui était artiste peintre. Et voilà, et il y a ce petit piano qui démarre et j'adore ce moment dans le film. Voilà.
Et vous lancez aussi dans la production cette même année
les films? Oui, puisque nous l'avons produit avec les films de Françoise. Je travaillais avec Mina Driouche et on produit ensemble les films. Et on l'a fait ensemble, mais on a fait des longs métrages aussi, et voilà.
Et là, c'est une autre casquette productrice.
Oui, alors je trouve que c'est intéressant de connaître tout l'outil cinéma.
Ouais.
Donc, je suis actrice, réalisatrice, un petit peu productrice, donc voilà.
On va passer à un autre style de musique. Stéphane Brisé, pour vous, en 2015, c'est...
Et on fait tourner les cerveaux comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent.
Parce que énorme succès, c'est ça?
Ouais, là, on était en mode festif après la sortie de la loi du marché. C'est une vanne, hein, c'est. Mais à ce moment-là, on a plein d'amis, ouais. On reçoit plein d'SMS, on a plein de coups de téléphone. Donc c'était un moment incroyable ce qui s'est passé avec la loi du marché. Tout s'est fait très vite, en fait. Tout ça s'est fait en moins d'un an et demi. L'écriture, le tournage, le montage, Cannes, la sortie du film. Et puis vraiment un gros succès. Tout d'un coup, il y a quelque chose de.
Bah oui.
De
magique, d'incroyable.
Mais en fait, ce qui est magique.
On fait tout ça pour ça aussi, quand même, non?
Oui, mais c'est aussi étrange de vivre un très gros succès qu'un insuccès. Et un an après, je ne pense pas avoir été
10 fois moins bon comme réalisateur, et un an après sortait Une vie qui a fait 10 fois moins d'entrées. Mmh. Et c'est très étrange de vivre ça, toujours un très gros succès.
Mais pardon, ça prouve que le succès ou le moindre succès n'est pas lié à votre personne, mais plus soit à une histoire, soit au moment où...
Ouais, c'est très
à une alchimie qui n'est
personne peut penser que la loi du marché ou que la guerre déclarée peut faire aussi gros succès. Il y a quelque chose tout d'un coup qui existe, et bon, ça existe.
On explique le succès toujours après, on peut pas savoir.
Mais c'est un des mystères, d'ailleurs. On ne sait pas ce qui fait qu'un film marche ou pas.
Heureusement.
Donc ça existe, et puis après, ça peut moins bien se passer, mais en tout cas, à vivre, c'est quelque chose d'assez puissant.
Puissant également cette reprise de My Way. Adam Nass est de retour dans la bande originale. My Way pour vous.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it did it my way.
Bravo. Alain Nas, cette version spécialement pour l'émission, spécialement pour la bande originale, merci, avec Christelle, Louis et Arou. On en parlera avec lui tout à l'heure. Cette version de My Way, merci mille fois Adam Nas. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour Nagui.
Bella Hadid est dans la tourmente.
Oui, Bella Hadid, c'est une top modèle américaine qui a 22 ans et qui est belle comme le jour. Elle défile pour Victoria's Secret et les riches. Sa vie est aux antipodes de celle de Philippe Poutou. Mais sur Internet, elle est accusée de racisme, la pauvre, et ce, vous allez voir, pour la raison la plus débile qui soit.
Ça sera après les infos de midi. La bande originale avec Léa Cadeau-Boudéli, Daniel Morin,
salut Léa,
Albert Algou, Guillaume Moulin, Tanguy Pastureau,
bonjour.
Adam Nas est en live encore tout à l'heure avec un autre titre, et nos invités Valérie Donzelli et Stéphane Brisset.
Bravo.
Dans cette bande originale, nous parlons de Champs-Élysées Film Festival, le cinéma indépendant français et américain réuni jusqu'au 25 juin. J'insiste sur le mot indépendant parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est du côté du public. Il y a vraiment un gouffre entre on va dire les gros producteurs et les gros distributeurs et les indépendants. Valérie Donzelli.
Bah, en France, quand même, on a cette chance d'avoir un cinéma qui arrive à se financer. Je pense qu'aux États-Unis, c'est un vrai truc d'être indépendant.
On a l'impression, vu de l'extérieur, qu'indépendant veut dire film d'auteur. Et bah, on n'est pas dans les Marvel, on n'est pas dans les super productions et dans les effets spéciaux. On est dans le film intelligent qui raconte une véritable histoire et qui est plus proche du cinéma européen.
Peut-être un peu plus, oui. Mais c'est vrai qu'en France, le cinéma indépendant, il a un vrai financement. Enfin, le film d'auteur a un vrai financement en France. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout de subvention comme en France, quoi. Donc, c'est soit des gros studios, soit ils deviennent eux-mêmes producteurs. Enfin, voilà. Et après, c'est des... ils se débrouillent comme ils peuvent.
Et les gros studios aux États-Unis, ils ont des filiales. Par exemple, ouais. Fox, ils ont Fox Searchlight. Et ils font, par exemple... ils font des films d'auteur. Alors, parfois, c'est des films d'auteur qui coûtent une blinde quand même, quoi.
D'accord. Non, mais ne serait-ce que le nom qu'il lui donne, Searchlight, cherche la lumière. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ce côté découvreur de talent. Parce que le talent vient des indépendants plus souvent que des grosses productions.
Je me souviens, moi, j'avais eu une, pour Chambon, d'ailleurs, le Chambon, j'avais une nomination aux Independent Spirit Awards à Los Angeles.
Vous avez eu un César, on a oublié de le préciser tout à l'heure, pour l'adaptation.
Pour l'adaptation de Chambon, ouais. Donc j'étais allé là-bas, donc c'était une soirée, et étaient nominés aussi bien des gens qui avaient fait des films à 100 000 $ que Le Discours d'un roi à 70 millions. Et ça aussi, c'est des films indépendants, donc c'est des films qui faisaient partie justement des filiales des majeurs. Mais en France, le cinéma globalement est indépendant en France. Il y a très peu de films qui sortent des majors.
Quand on a vos carrières et vos succès respectifs, est-ce qu'on est assuré de pouvoir monter le projet que l'on veut, ou il y a toujours ce petit doute, Valérie Donzelli, d'y arriver ou pas?
Ah non, pas du tout. Ah non, non.
On est toujours vraiment fébrile.
Ouais, moi j'ai l'impression que je gagne un ticket pour pouvoir... Enfin voilà, c'est sûr que de faire un succès avec La Guerre déclarée, moi on m'a permis de faire Marguerite et Julien, Main dans la main, qui étaient des films assez... particulier, Marguerite et Julien, qui a été un vrai échec, quoi. Ça a été, il était en compétition officielle à Cannes, mais les gens ont détesté le film, la critique a été très dure, le film a fait très peu d'entrées. Enfin, c'est vraiment.
Et là, on est personnellement touché dans ces cas-là, où on se dit c'est le travail qui n'a pas été pris.
Non, alors moi, c'est compliqué parce que.
Quelle est la part humaine en fait dans ce genre de situation?
Non, ça blesse. Avoir une mauvaise critique, ça blesse. Ouais. Ça blesse plus que d'avoir. C'est ce qu'on retient.
Ça dépend.
En fait.
Ça dépend qui la formule, cette mauvaise critique.
Mais là, c'était beaucoup de mauvaises critiques. C'était pas une mauvaise critique. C'était vraiment.
Mais ça correspondait au film que vous vouliez faire ou pas?
Parce que moi, j'adore le film et j'en suis très très fière. Voilà. Et après, je pense qu'en fait, c'est totalement irrationnel. Ouais. C'est-à-dire que un échec ou un succès, ça n'est pas la vérité d'un film. Et le succès de La Guerre est déclarée, j'adore le film, mais c'est aussi lié à un contexte, c'est arrivé au bon moment, au bon endroit, c'est pas non plus sa vérité.
C'est honnête, ouais, c'est joli de dire ça comme ça. Ouais.
Et en fait, je pense que ça fait partie surtout du métier de metteur en scène, c'est-à-dire de pouvoir supporter les succès qui sont difficiles à supporter, et de pouvoir supporter les échecs.
et de pouvoir supporter l'indifférence aussi, et de continuer de faire des films et de continuer son chemin et sa route. En tout cas, moi, c'est ce
à quoi je... Vous avez la même vision que Valérie Donzelli?
Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, de se confronter à un succès, à un gros succès ou un gros échec,
c'est la même gestion, en fait.
Je crois qu'il faut mettre les mêmes choses, les mêmes défenses à l'œuvre, en fait. C'est pas nous qui sommes attaqués directement, mais on y met tellement de nous que c'est quand même très, très... C'est dur, quoi. Il y a le succès ou l'insuccès public. Et puis, ce qui est dit sur le film aussi, on le sait, même si on lit pas, personnellement, je lis pas mot à mot tout ce qui s'écrit. On sait quand même qui dit du bien ou pas du bien. C'est quand même étrange comme situation. Et c'est vrai.
Est-ce que la profession retient, finalement, est-ce qu'elle retient plus souvent les échecs que les succès, ou est-ce que là aussi, elle juge de la même manière?
Je sais pas globalement, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'apprécie les journalistes qui sont capables de regarder les films indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire d'être capable de dire « ce film-là, j'ai trouvé ça vraiment super bien, et puis celui-là, pardon, mais j'ai pas accroché ». Mais il y a d'autres journalistes, je suis obligé de constater, où ça va être la totalité des choses qu'on va faire, ça ne va pas passer. Et à un moment, ça devient étrange.
Pardon, il y a aussi l'inverse, Stéphane.
Dans l'autre sens.
Voilà. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un a fait un succès, il a la carte et il peut se permettre de faire.
Ça suffit pas le succès pour avoir la carte, mais je suis allé voir des journalistes, je dis, écoute,
on sera plus tolérant avec quelqu'un qui a eu un succès et qui fait un faux pas.
Mais non, parce que le succès, il y a des gens qui le font payer aussi de l'autre côté. Donc, c'est pas une science exacte, mais je suis allé voir des journalistes. Parfois en disant, écoute, là, je sais ce que vous avez écrit sur ça, c'est violent, c'est dur, mais très honnêtement, je l'accepte parce que vous avez été capable sur un autre film de dire que c'était très bien. Donc c'est pas moi personnellement, il y a rien, sur ma personne. Vous regardez les films indépendamment. D'ailleurs, c'est mieux de lire les critiques qu'à l'étranger. Alors là, on nous connaît pas personnellement, donc on regarde le film et c'est très libre.
Il n'y a pas de jugement humain ou d'agression personnelle.
Non, ça ne rentre pas
dans
l'équation si parfois ça doit rentrer.
Voici Tanguy Pastureau sur Inter. Tanguy, les polémiques semblent de plus en plus idiotes.
Oui, on vit dans un monde de cons. Ce qui pour moi est bien, parce que j'ai pas un bagage énorme, mais je pense à l'éditeur d'Inter, ce petit tête de gauche qui, à 9 ans et demi, lisait déjà Marx avant de craquer vers 12 ans pour la social-démocratie. Eh bien, il réalise qu'il est moins fait pour cette époque qu'un t-shirt « Fuck me, I'm famous » pour Arlette Chabot. Tiens, cette semaine, la polémique mondiale numéro 1 parmi les 30 000 polémiques nées sur les réseaux sociaux, ces antichambres de l'enfer où 100% des utilisateurs sont atteints du syndrome de la Tourette, et qui, quand Jennifer écrit « Les loulous, je vous aime », répondent « Va lécher des sexes de cerf, pauvre taspé », ou de caribou, s'il s'agit de Québécois. La polémique là concerne Bella Hadid. Alors Bella Hadid, c'est une top modèle de 22 ans, soit 82 moins qu'Alain Juppé, qui défile pour Victoria's Secret, la marque de petits slips très haute qui plante des plumes dans les fesses des filles sur scène. Alain Bougrain-Dubourg de la Ligue de Protection des Oiseaux, par adhésion, enfile le soir des soutiens-gorge Victoria's Secret. Mais surtout, c'est une star du net, contrairement à Raymond Queneau. Il faut dire qu'il est mort en 76. Or, dès que vous êtes une star, vous savez que des gens vont chercher à vous faire tomber. C'est pour ça que moi, je suis peinard. Juste par jalousie. Et là, lundi, la petiote ajoute une photo à sa story Instagram. Alors, la story, c'est une succession de photos censées retracer votre quotidien. Par exemple, sur celle de Guillermo Guise, on le voit chez l'orthophoniste avec moi, puis entouré de filles, s'arrachant son t-shirt, toujours tombant de manière nonchalante afin de dévoiler ses triceps et ses droits latéraux, enfin tous ses muscles que moi, je n'ai pas. Donc, Bella Hadid est dans un aéroport parce qu'elle pollue la planète, cette ordure. Elle est assise face à une vitre derrière laquelle des avions attendent d'être remplis jusqu'à la gueule de touristes qui, à cause de leur peur du décollage, émettent la même odeur qu'une famille de moufettes en train de crever. Là, elle lève la jambe, telle Fifi le coquard de ma tante, et photographie une de ses bottes. Instant fashion, vide intersidéral, à part mademoiselle Agnès qui est en PLS, tout le monde s'en tape. Elle met ça sur Instagram, hop, et là, direct ça part. Les internautes lui tombent dessus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vu que les avions en arrière-plan sont floqués de drapeaux de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ces riants pays où vous finissez en tôle si vous caressez en public l'arrêt des fesses de votre conjoint. Ce qui pourtant est la base d'une relation réussie. Et même son accomplissement qu'on entoure et qu'on enrobe de sentiments pour faire passer le truc. Bella Hadid se fait donc traiter de raciste parce qu'on l'accuse avec son pied d'écraser symboliquement les drapeaux de ces deux pays, qui en arrière-plan sont placés sous sa semelle. C'est aussi con que si on disait de Franck Dubosc qu'il encourage la gérontophilie parce qu'il aurait posté une photo de lui sur le tournage de Camping 4 et que derrière on voyait Claude Brasseur en slip en train de lécher une glace de boule.
Oh là là, cette polémique a vraiment pris une telle ampleur.
Mais oui Nagui, des Saoudiens ont appelé au boycott des marques Dior et Versace dont Bella Hadid est l'égérie. Or les Saoudiens ont plus de blé que la grenouille des céréales Max. Un Dior pour eux c'est la halo vêtement pour nous. Moi parfois pour être bien reçu aux Galeries Lafayette à Paris, je me déguise en Saoudien. Hein, j'arrive avec deux jerrycans de brut et un foulard sur la tête. Et là en général un vigile hurle c'est un terroriste putain et m'éclate la tête à l'arrière du stand Rolex. Donc Dior a appelé Bella Hadid, lui a dit bébé repens-toi sinon dans deux mois t'es égérie de Tati. Elle a réagi sur internet juste parce que 1000 crétins ont vraiment pensé que son intention était d'écraser le drapeau saoudien sous sa pompe. Alors que la star d'Instagram n'émet pas d'avis politique parce que ça nuit à son business. Moi je peux dire ce que je veux parce que j'ai rien à vendre à part ma collection de pins parlants du chien de Bernard Montiel sur le bon coin. Donc la pauvre a donc été obligée d'écrire sur les réseaux sociaux, je cite, je n'avais pas remarqué les avions en arrière-plan, ce qui est vrai, la star d'Instagram est égocentrée. Ainsi Booba et Caris s'égorgent l'un l'autre dans un aéroport pour peu qu'elle constate qu'elle a un nouveau grain de beauté et ne voit rien. Et elle ajoute, je ne manquerai jamais de respect à ce pays merveilleux. On parle de l'Arabie Saoudite là, hein, des tueurs de journalistes, exécuteurs de gays, les femmes peuvent pas quitter le pays et il y a un gosse qui croupit en tôle depuis qu'il a 13 ans parce qu'il a participé à une manif anti-gouvernementale. Et là tout le monde se réjouit qu'il ait échappé à la peine de mort. À l'ONU ils ont fait une chenille tellement ils étaient joisses. Bref, Bella Hadid n'est pas raciste, elle est simplement inconsistante et à peu près aussi bête que les abrutis qui la clashent sur le net.
Merci Tanguy Bastiaud.
Sur France Inter.
Stéphane Brisé, ça va pas vous réconcilier avec les réseaux sociaux.
Voilà, j'entendais la raison pour laquelle je n'étais pas sur les réseaux sociaux.
C'est fou.
C'est complètement délirant. Et récemment, ça me faisait penser qu'il y a eu toute une affaire autour du sigle Lotus sur du papier toilette et certaines personnes ont reconnu un sigle d'écriture arabe qui était contre, je crois, le prophète. Et donc là, c'était Haro sur les réseaux sociaux sur le papier Lotus. Donc on a atteint des niveaux de délire.
Mais d'accord,
c'est extraordinaire.
Vous qui avez un regard, tous les deux, vous avez un regard sur la société et c'est le propre d'artistes, de cinéastes et de scénaristes. Comment expliquer cette espèce de je sais pas, à la fois c'est génial parce que il y a des cagnottes qui sauvent des enfants, qui permettent des opérations grâce aux réseaux sociaux, chose qui était impossible il y a quelque temps, et de l'autre côté, il y a la délation, il y a le côté corbeau, l'anonymat derrière lequel on se cache avec certains comptes pour balancer des horreurs ou des mauvaises informations ou nuire à des images.
Bah, ce qu'il faut retenir, c'est que quand par exemple il y a le printemps arabe, les réseaux sociaux à ce moment-là sont ultra utiles. Bah oui, c'est par là que les infos passent, clairement. Les gens savent où se retrouver et tout d'un coup il se passe quelque chose grâce à ça. Mais pour cette chose positive-là, il y a quand même un océan de délire, quoi. C'est ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, quoi. Incroyable.
On va continuer de parler de ce Champs-Élysées Film Festival qui a lieu jusqu'au 25 juin. C'est à Paris. Il y a plusieurs cinémas. Il y a des projections. 6 films en compétition pour les Français. 6 films en compétition pour les Américains. En long métrage. Et puis, idem pour les courts métrages également. Et puis, il y a aussi des rencontres.
Des invités d'honneur avec Christopher Walken,
exactement,
par exemple.
Exactement. Des masterclass.
Jeff Goldblum. Ouais, c'est super.
Et puis, il y a aussi un autre, ça s'appelle, je sais pas, je vais le trouver. Un autre jury qui s'appelle US in Progress, où là ce sont des cinémas, des films indépendants américains qui sont projetés. Apparemment, Stéphane découvre le truc.
On a déjà des films indépendants américains.
Bah alors, je sais pas.
Mais il y a un jury jeune.
Alors, il y a un jury presse aussi.
Il y a un jury presse.
D'accord. Alors, il y a une distributrice, Céline Salin, et une productrice, Gabrielle Dumont. Enfin, il y a plusieurs qui font partie d'un jury qui s'appelle US in Progress,
qui est
un événement biannuel qui a lieu à Paris pendant le Champs-Élysées Film Festival et qui a lieu également en Pologne pendant l'American Film Festival en novembre. Et le programme professionnel permet de collaborer, de faire collaborer ces deux festivals pour faciliter la circulation du cinéma indépendant américain.
C'est une belle information. Là, on est sur des trucs très très pointus. Là, Nagui, là, je pourrais pas forcément enchaîner.
J'ai plein d'autres trucs à raconter sur votre vie. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Pour l'instant, c'est le retour d'Arnaud Gravini à la batterie, de Louis Guégo à la guitare, au clavier, au cœur, de Christelle Cano à la basse et au cœur également, et d'Adam Nas pour un troisième titre, Shalala Love.
I don't wanna wake up, it's midday, and I
Don't wanna make love to you today. I know I'm bad, but bad, it's okay. I never loved you anyway. And I wanna be free, and I wanna be free, and I wanna be free. And I wanna be free, and I wanna be free. Sha-la-la. Years with a heated man, he was beautiful, he was beautiful like you, but only on Mondays and Tuesdays and Wednesdays, you know, it felt good, it felt good, and he left me the door, he left me, he strong me, the door, he closed the door, he hurts once more, so I open the door, yes I open the door, he hurts me, no more, and I wanna be free, 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 and I wanna be free. Oh, 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 and I love you anyway. And I love you anyway. Love you anyway.
Formidable, de la soul, du rock, de l'électro, tout ça sur The Love Album. Merci beaucoup, Adam. Merci aux musiciens, aux artistes. Il sera présent, je le rappelle, sur cette terrasse Publicis au 133 avenue des Champs-Élysées pour le Champs-Élysées Film Festival, mais également en tournée et en concert. Soliday, ça sera le 21 juin, donc vendredi soir. Puis il sera à Marseille la semaine suivante, le 27 juin. Puis à Cognac en juillet, Casablanca toujours en juillet, Valence toujours en juillet, les Sables d'Olonne, Saint-Brévin-sur-Mer et Saint-Brévin-les-Pins, pardon. Et puis en Belgique au mois d'août, à Ronquières, à Arreau en Suisse, à Turin en Italie, une tournée mondiale qui va le mener jusqu'au Canada fin août. Adam Nas à découvrir, à aimer sans modération. Merci beaucoup, Adam. Autant de talents réunis dans une personne. Je parle évidemment d'Adam Nas, pas de Daniel Morin.
Grand
Grande question. Y a-t-il de la corruption dans l'univers feutré du football mondial?
Non.
Ça se saurait! Oh, la Coupe du Monde au Qatar en 2022 n'a été décidée et validée qu'en fonction de critères footballistiques objectifs. Bon, il fait plus de 70 degrés à l'ombre en juin, période de Coupe du Monde, mais bon, c'est un détail puisqu'il y a la solution de la clim. Mais oui, la clim, des stades entiers climatisés. Au niveau écologique, c'est une excellente initiative. Mais bon, le Qatar est un bon choix pour la Coupe du Monde de foot. N'oublions pas que le Qatar est un grand, grand pays. C'est un peu plus grand que la Corse, précisons. Et c'est surtout un pays qui a les moyens et qui arrose à tout va. 100 millions de dollars sur un compte de la FIFA, 3 semaines avant l'attribution de la compétition. Et du coup, maintenant, la justice s'intéresse à Michel Platini. Eh oui, Platoche qui a participé en 2010 à un déjeuner tranquille à l'Élysée en compagnie de Nicolas Sarkozy, du prince héritier du Qatar, accompagné du premier ministre du petit pays au gros gardé tchèque. Alors, mais il était honnête, Platini, il l'a dit pendant la garde à vue. Je suis venu à ce déjeuner pour dire au président Sarkozy pour qui j'allais voter pour la Coupe du Monde 2022. Je vais voter pour les États-Unis. Je savais même pas que l'émir et le premier ministre du Qatar étaient là pour déjeuner. Et puis, ils avaient des arguments, du coup... J'ai changé d'avis et j'ai voté pour le Qatar.
La qualité d'écoute de Michel Platini. Ce gars-là était à deux doigts de voter pour les Américains. On lui sort les bons arguments. Eh ben, il a l'ouverture d'esprit de changer d'avis et de voter pour le Qatar.
J'en connais plein qui auraient dit « Non, non, j'entends vos arguments, mais ma décision est prise. Pour moi, le pays le plus à même d'organiser la Coupe du Monde de foot en 22, c'est les États-Unis. J'ai pris ma décision. Pas à la légère. En plus, je ne changerai pas d'avis. » Eh ben non. Quand tu sais trouver les mots, eh ben Michel, il peut donner ta chance. Non mais de la crier halte à la corruption, je dis halte. Et c'est pas parce qu'à ce déjeuner à l'Élysée, il y avait Claude Guéant, le ministre de Sarkozy, condamné pour détournement de fonds publics. Claude, le fameux distributeur d'enveloppes de cash. C'est pas parce qu'il était là qu'il faut en tirer la moindre conclusion sulfureuse. Michel est un homme ouvert, ça il a expliqué pendant une quinzaine d'heures de garde à vue. Allez, avant de se quitter les amis, je voudrais rendre hommage à la sincérité, parce que c'est pas tous les jours de certains politiques. Hier à Matignon, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'est exprimée pour présenter les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage. Elle devait conclure son propos par ces mots. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et contre la précarité. Malheureusement, dans sa bouche, il y a eu un petit bug. Hein. Elle a dit ça.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
Oh là 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 là, pour la précarité, ya ya ya. Bon, attendez. C'est pas n'importe qui, elle s'est rattrapée brillamment.
Et contre la précarité, pardon.
Non, mais c'est brillant, mais c'est trop tard, madame. J'imagine tellement ce qui s'est passé dans la tête d'Edouard Philippe quand il l'a entendu.
Contre le chômage et pour la précarité.
Quoi ? Elle a dit quoi ? Pour la précarité ? Non, mais elle est conne ou elle est conne ? Mais non, monsieur le Premier ministre, elle est fatiguée, c'est tout. Vivement les vacances pour tout le monde, enfin, pour ceux qui pourront s'en offrir. Allez, à demain.
Merci, Damien. France Inter, la bande originale. Le Champs-Élysées Film Festival, vous pouvez y accéder, il y a des passes illimitées à 49 €, vous pouvez voir tous les films, tous les courts-métrages, assister pardon, à toutes les rencontres et à tous les concerts, ou alors c'est 7 € la séance. La présidente du jury des courts-métrages est Valérie Donzelli, le président des longs-métrages Stéphane Brisé, mais vous allez vous remettre, ou c'est déjà fait peut-être, au long-métrage Valérie Donzelli, puisque c'est le 18 décembre que sortira Notre-Dame.
Oui, tout à fait.
Dans lequel vous jouerez ?
Oui, tout à fait.
Aux côtés de Pierre Deladonchamp, c'est une comédie romantique, c'est comment le qualifier ?
C'est une... Je sais pas, c'est difficile à qualifier parce que c'est un peu un... C'est un peu un ovni, mais non, je dirais que c'est une comédie sur la reconstruction personnelle et symbolique.
En tout cas, le sourire que vous prenez pour le raconter donne envie de voir le film, je vous le dis.
Non, j'ai adoré faire ce film.
Et ben, on espère avoir l'occasion de vous accueillir pour en reparler à ce micro. Au moins, on saura qu'on s'est déjà vu. Stéphane Brisé, un long métrage en préparation, en écriture, en tournage.
Là, à l'instant où je vous parle, je termine d'écrire un prochain film. Et Vincent Lindon sera le...
Étonnant.
Alors c'est très étonnant. Effectivement, là on est dans quelque chose de très étonnant. Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin aussi face à lui.
Étonnant.
Et puis on est en train de chercher le reste du casting.
Non, c'est... Le sujet ?
Et bah, c'est de montrer que le bras armé du système, donc le système que j'ai écrit dans mes films, que le bras armé du système qui fait du mal, il est quand même aussi très métastasé. Il va pas si bien que ça.
Merci mille fois en tout cas d'avoir trouvé le temps de venir nous parler. Stéphane Brisé, Valérie Donzelli, portez-vous bien. Demain, nous recevrons Dora Tillier et William Lebguil justement pour le film Yves qui a été présenté hier en ouverture du Champs-Élysées Film Festival. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.
Merci, Nagui.
Bonne journée, Philippe.
Ouais, salut.
Ciao. À demain.